Ma fille.
RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Nous partons aujourd'hui en Guinée, et cette fois non pas pour parler de la terrible fièvre Ebola, mais d'une autre fièvre aux conséquences moins dramatiques, la fièvre de l'or. Pour cela, rendons-nous dans l'est du pays, tout près de la frontière malienne, dans la ville de Sigiri, située sur le fleuve Niger. Elle est surtout réputée pour ses mines d'or, mais la zone est aujourd'hui hors de l'espace et hors du temps. Hors de l'espace dans la mesure où la préfecture et ses alentours semblent totalement échapper au contrôle des autorités guinéennes. Hors du temps, dans la mesure là où des dizaines de milliers de personnes abandonnent tout pour s'y rendre en espérant y faire fortune. Dans les villages, le commerce de l'or est une affaire juteuse mais ne sert pas au développement de la région en manque d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures. Dès leur plus jeune âge, les enfants travaillent dans les mines, délaissent les bancs de l'école et sont exposés aux risques liés à l'activité. Pour finir, l'afflux massif d'étrangers venus des pays voisins favorise l'installation de camps vétustes et propices à toutes sortes de trafics, notamment la prostitution. Pour l'État guinéen, le grand défi est d'encadrer cette activité tout en organisant une véritable redistribution régionale des revenus. Guinée, la folle ruée vers l'or, c'est un grand reportage de Sidi Yansané que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Doko, une sous-préfecture située à une cinquantaine de kilomètres de Sigiri, sur la route qui mène à Bamako. Le soleil au zénith impose sa chaleur étouffante, pourtant les habitants vont et viennent entre les allées caoutchouteuses qui traversent la petite ville, tous occupés à chercher la dépense de la journée. Une allée près du marché est particulièrement fréquentée, elle mène sur une piste dont la poussière est soulevée par un balai incessant d'allées et venues de motos, de voitures, de camions chargés d'eau, de vivres et de matériel de forage. Le terminus s'effectue 3 km plus loin, où des milliers de personnes se livrent à un étonnant remue-ménage. Sous le poids de l'écrasante chaleur, des hommes, des femmes, des vieux, des enfants creusent des centaines de puits sur toute l'étendue terreuse, tous armés de pioches, de pelles, de seaux, de torches et d'autres outils rudimentaires nécessaires au travail minier. Tous des orpailleurs, tous venus pour soigner leur fièvre du précieux métal jaune, ici, dans la mine de Ségué. Ici, le chef de la mine, c'est le vieux Fantamadi Kondé. C'est aussi lui qui, à la mort de son père, héritera du B, mot utilisé localement pour désigner une concession.
C'est nos parents qui ont créé ce mine d'or depuis 1922. Ils ont été les premiers à venir ici. Donc, ensemble, ils ont fait les sacrifices d'ici et ils ont retrouvé de l'or. On ne peut pas trouver de l'or sans faire les sacrifices. Ça, c'est de coutume. Certains peuvent donner des chèvres ou bien des bœufs pour que l'or soit libéré. Là où nous sommes, ça ne fait pas 2 semaines encore, on a fait un sacrifice d'un bœuf. C'est notre famille qui gère. L'héritage est continuel, on ne peut pas changer ça. Hier, aujourd'hui et demain, toujours, c'est les deux familles là qui vont gérer cette mine.
Depuis toujours, les mines du Bourré, le nom historique de la région, permet à tous d'y chercher de l'or. Évidemment, il y a surtout des Guinéens, comme Michel Guilavogui, 27 ans, originaire de Macenta, dans la partie sud du pays. Ça fait 9 mois qu'il cherche de l'or dans le Bourré.
Tu avais déjà travaillé dans l'or avant ?
Bon, c'est ma première fois de travailler ça. C'est ma première fois.
Tu faisais quoi à Macenta ?
Bon, là-bas, j'étais à l'école. J'ai fait le lycée là-bas. Au lycée Amikar Kabra et le TP. C'est là-bas où j'ai fait mon bac, en 2011. Bon, mais je n'ai pas eu ça, je suis sorti.
Tu n'as pas eu le bac ?
Oui, je n'ai pas eu le bac, compte tenu des difficultés familiales. Je suis descendu d'abord en septembre à Conakry. Là-bas, ça n'a pas marché, je suis venu par là. À l'heure là, on voit qu'il y a la différence maintenant. Ça va un peu ici. On commence à gagner un peu d'argent ici. En fait, c'est dur, hein ? C'est dur, hein ? C'est vraiment dur. C'est ce qu'on appelle ici, en langue... Sur l'air l'année, on dit colo-colo. C'est la force physique qui travaille, l'énergie en quelque sorte.
Mais le métal jaune attire également des ressortissants des pays voisins, voire plus éloignés, des Maliens, des Sénégalais, des Sierra Leonais, des Ivoiriens et beaucoup de Burkinabés. Abderrahmane, justement, 25 ans, fait régulièrement le trajet depuis le Burkina Faso.
Je suis venu ici, bon, je vais l'argent pour aider ma famille, quoi, et puis moi-même, être un chef de famille. Bon, ça fait 5 fois que je viens ici. Je viens et puis je pars. Bon, quand j'ai gagné l'or là, Je vais aller chercher une maison pour mettre ma famille là-bas. C'est ça seulement. Et puis, je vais chercher un autre travail, quoi.
Ça, c'est de l'or, ça.
Un sourire se dessine sur le visage de cet orpailleur à l'écoute du ronronnement de son détecteur de métaux. Malheureusement pour lui, il ne vient pas de trouver de l'or, mais un bout d'aluminium caché dans un tas de gravier étalé sur le sol. Ce tas provient d'un seau qui vient tout juste d'être tiré du fin fond d'un puits de 20 mètres de profondeur. Et une fois à la surface, les mineurs l'examinent minutieusement à l'affût de la moindre poussière d'or. À l'origine et d'après les croyances locales, le B est désigné par les sages du village. En suivant des indications apparues dans le rêve d'un voyant, chaque année, un sacrifice est nécessaire pour que les esprits autorisent l'exploitation de l'or. Ce n'est qu'après ce rituel que s'organise le travail dans la mine. Aujourd'hui encore, la réglementation de la mine répond à des mythes très anciens. La mine appartient aux sages du village, qui ont confié la gestion à l'un de ses enfants et le désigne comme chef de mine. À son tour, ce chef nomme ce qu'on appelle ici des tombolomas, des sortes de juges qui définissent les règles de la mine et qui sanctionnent lorsqu'elles sont transgressées. À Ségué, le vieux Sédou Camara est à la tête des tombolomas.
Notre rôle, c'est de régler les différends. Quand des personnes viennent nous voir, on les écoute et on les départage pour déterminer qui est dans son bon droit et qui ne l'est pas. Le but est d'éviter tout ce qui peut freiner le travail dans la mine. Il y a quand même des problèmes. Par exemple, lors de l'octroi d'un puits aux mineurs, les orpailleurs se disputent parfois le même puits. Il y a aussi des cas de vol de sacs de gravier qui peuvent contenir de l'or. Pour tout ça, on fait aussi appel aux chasseurs d'Onzo.
Sur le terrain, les tombolomas sont épaulés par des donzo, des chasseurs traditionnels qu'on dit dotés de pouvoir. Ils font office de police au sein de la mine. Toujours sur la route qui relie Sigiri à Bamako, la mine la plus prisée du moment se trouve à Tonson. Contrairement au paysage plat de Ségué, ici le site donne l'impression d'avoir subi plusieurs attaques à l'explosif. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais l'exploitation massive du terrain a complètement transformé l'apparence du lieu. Les mineurs sont nettement plus nombreux ici, il y a toujours autant de femmes, mais beaucoup plus d'enfants. Saran Sissoko porte un bébé sur le dos, tout en rinçant une calebasse pleine de terre. Ses trois petites filles travaillent à ses côtés.
Avec l'or que je revends, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Je peux les nourrir, les habiller, les soigner. On travaille en famille pour plus de revenus. Mes filles vont à l'école, mais elles sont à la mine pendant les vacances.
Dans la région, l'or est une aubaine pour tout le monde. Ça procure un travail à tous les mineurs et des revenus importants pour les plus chanceux. Il y a aussi des échanges dans la pratique d'exploitation. Par exemple, les Guinéens ont appris à utiliser du bois pour consolider les parois des puits, une technique enseignée par les Burkinabés. Cela permet surtout de limiter les éboulements, de chercher plus en profondeur et même de creuser des galeries souterraines. Le prix à payer pour l'environnement est important. Plus il y a de tunnels, plus il faut du bois et plus la découpe des arbres s'intensifie. Il suffit d'observer les centaines de troncs alignés en tas aux abords de la mine, attendant l'ouverture du prochain puits. Pour l'instant, cette déforestation n'inquiète pas les mineurs outre mesure.
Là-bas, la terre, là, une fois que vous creusez, une fois, deux fois, trois fois, allez, ça casse. Il faut soutenir avec les bois. C'est pourquoi vous voyez les bois par-ci, par-là, de gauche à droite, il y a beaucoup de bois.
Et les bois, là, ils viennent d'où, d'ailleurs ?
Bon, on les arrache dans les petites forêts, là, ici.
Parce que ça fait beaucoup de bois, hein. Vous allez enlever tous les arbres.
Beaucoup même, beaucoup de bois.
Ça, ça tue les arbres.
Ah, bon, ça, c'est... seulement, quel que soit le même problème, seulement qu'on cherche de l'or. Que ça détruit ou pas, en fait.
On a de l'or.
Voilà.
Donc, même si ça détruit la nature, pour l'instant, c'est pas ton problème.
En fait, non, je ne dis pas que c'est pas mon problème. Mais, il faut qu'ils acceptent. Assez qu'on puisse gagner ce qui nous a déplacés.
Ah, donc le plus important d'abord, c'est l'or.
Voilà, ouais. C'est tout. Et puis aussi éviter le danger. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura trop de morts ici. Il y aura beaucoup de morts.
Et quand vous mettez les bois dans le puits, dans le trou, même si le trou n'est plus utile, vous l'abandonnez, vous laissez les bois dedans.
Immédiatement, ouais. On l'abandonne. Ça peut faire 2 ans là-bas. Et puis vous pouvez encore revenir la deuxième année, retravailler encore.
Il est 18h, le coup de sifflet d'un chasseur d'onzo posté sur une butte de terre sonne la fin de la journée. Les mineurs abandonnent le matériel sur place, à la surveillance des chasseurs, qui assurent la garde du site durant la nuit. L'occasion pour les travailleurs de se reposer dans le camp mis en place depuis leur arrivée. Mais si la vie dans la mine est très réglementée, le camp où vivent les orpailleurs est livré à lui-même. Celui de Tonson impressionne par sa taille et son insalubrité. Des centaines de tentes tenues par des poutres et couvertes de bâches bleues se dressent entre les allées. Ici, on trouve des boutiques de toutes sortes, des cafés, des restaurants et même des bars et des boîtes de nuit. Les résidents ont déjà baptisé les allées et les secteurs. C'est un camp, mais on y retrouve les principaux services d'une ville. Il y a surtout beaucoup de jeunes femmes dans ces camps. Elles ne viennent pas pour l'or, mais pour les chercheurs d'or. Dans une allée sombre du camp de Tonson, ces femmes, originaires de Guinée et des pays voisins, se prostituent chaque soir dans des tentes de fortune aménagées par leurs soins. Ici, il faut cacher le micro pour les faire parler.
On est des marchés, on va poser beaucoup de choses. Poser des femmes et des garçons, là, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses dans poser.
Ah. Toi, tu proposes quoi comme causerie?
Tout, dedans.
Toi, tu n'es pas de Guinée, toi?
Non, ici, Burkina. Ah.
Tu n'es pas là depuis longtemps, alors?
Non. Je suis là, ça fait 3 semaines.
Et ta copine, là, elle a beaucoup de aussi?
Oui.
Ta copine, là, comment elle s'appelle?
Elisa.
Moi, je vais m'occuper d'elle.
Ok.
Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais baiser? Samé.
Pourtant, dans les villages, les habitants semblent satisfaits. Localement, les autorités compétentes et les propriétaires des mines s'arrangent sur un partage équitable des recettes dégagées dans leur paillage. De retour à Ségué, nous retrouvons le chef de mine, Fantama Dikondé.
Si toutes les recettes réunies font 10 millions ou 100 millions, c'est divisé en deux. Une partie, c'est pour la famille du chef de mine. Une partie, pour l'investissement du village. On donne directement au bureau du district, au président du district, qui gère ça pour investir. C'est pourquoi, cette année, on a fait la mosquée. Et grâce à ces recettes comme ça, on a fait un bâtiment de 4 pièces pour les enseignants.
Et le chef de district, selon vous, il gère ça bien pour le village ou pas?
Il gère ça bien pour le village. Parce que quand ce montant tombe dans leurs mains, nous informons tout le village. Donc, tout le village étant informé vise à ce que ce fonds-là soit vraiment investi et qu'il va rentrer dans le développement du village.
Et il n'y a pas eu parfois des cas de vol, détournement?
Non. Précisément ici, non. Peut-être ceux qui rentrent les recettes peuvent détourner, mais on ne peut pas justifier ça. Mais les montants versés, on ne peut pas détourner ça.
Face au micro, les élus peinent à chiffrer précisément ces recettes et à justifier leur utilisation, même s'ils reconnaissent que l'absence de législation rend tout ce fonctionnement très opaque. Une chose est sûre, les bénéfices récoltés sont à peine alloués à la protection de l'environnement. Sur ce point, l'exploitation abusive est un véritable désastre. À Conakry, c'est ce que nous explique Mohamed Zlamine Sidibé, conseiller au ministère de l'Environnement.
Pour l'environnement, c'est vrai que ça pose un gros problème qui est lié par exemple à la déforestation. Parce que pour commencer à travailler la mine, il faut d'abord couper les arbres. Et puis après, creuser. Parce qu'il faut chercher l'or. On sait que ces trous après ne sont pas restaurés. Et on laisse ces trous-là ouverts, il y a la pluie qui les remplit, ça devient des repères des serpents, ces terrains ne sont plus constructibles ni cultivables, et surtout avec la fameuse méthode burkinabé qui est très gourmande en bois, parce qu'il faut couper des branches et puis couper des troncs pour servir de soutènement, de support dans les mines. Donc du coup, on a carrément le sol qui est transformé en gruyère, quoi, où on a des trous partout. Donc ça fait un désastre énorme, oui. Et puis en plus, ils utilisent, eux, contrairement à ceux qui travaillent avant du mercure, alors qui est un produit cancérigène, et voilà, qui est très néfaste pour l'environnement, même à faible quantité, parce que ça fait partie des produits qui peuvent causer un désastre énorme, ne serait-ce que dans la chaîne alimentaire, par le phénomène de bioaccumulation, voilà, dont les effets sont différés dans le temps.
L'encadrement de cette activité représente un véritable défi pour le gouvernement guinéen. Pour le pays, c'est une source de revenus considérable qui lui échappe et ses réserves d'or diminuent année après année sans qu'il n'en tire de réels bénéfices. Aujourd'hui, le gouvernement en prend bien conscience. Il y a quelques mois, un forum a été organisé à Siguiri pour débattre de ce problème avec la population. Mais pour l'instant, ça ne freine pas les orpailleurs en quête de fortune. Guinée, la folle ruée vers l'or. Un grand reportage de Sidi Yansané, réalisation de Marc Minatel.
Minuit. Pour le cœur sensible, qui écoute et qui comprend, tout chante. Minuit. Minuit.
Sidi Yansané, bonjour.
Bonjour Laurent.
Sidi Yansané, vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Vous aviez cette formule à l'instant. Siguiri est devenu un état dans l'état. Comment peut-on expliquer un tel laisser-aller des autorités guinéennes devant l'exploitation de ces richesses?
En fait, la décentralisation des pouvoirs débutée dans les années 80 n'a pas eu les effets escomptés à cause du manque de formation des fonctionnaires, mais aussi à cause de la corruption massive qui a miné le pays durant des décennies. L'État a défini des taxes bien précises liées à l'activité industrielle des sociétés minières de la région. En revanche, ce sont les préfectures qui gèrent l'activité artisanale. Il existe bien des accords entre les préfectures et les chefs de mine, mais l'absence d'une véritable réglementation pose le problème de la redistribution des recettes. Certains villages ont pu bénéficier de nouvelles infrastructures comme des écoles ou des centres médicaux, mais à Siguiri, beaucoup m'ont confié que l'utilisation de ces recettes restait très opaque. Aujourd'hui, l'État affiche enfin une volonté de changement en organisant un forum en mai dernier, ce qui a permis à la population d'exprimer ses préoccupations. Mais il faut aussi tenir compte des échéances électorales. L'année prochaine, les Guinéens élisent leur président et la région de la Haute-Guinée dont fait partie Siguiri est le fief de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, qui n'a donc pas trop intérêt à bouleverser les pratiques de l'orpaillage artisanal pour le moment.
Vous nous avez décrit un système d'orpaillage très bien structuré qui permet d'éviter les conflits dans la mine. Mais paradoxalement, ce système ne tient pas du tout compte de la protection de l'environnement.
Oui, on a entendu dans le reportage ce jeune Guinéen qui explique que la priorité c'est de trouver de l'or et c'est le sentiment qui est partagé par tous dans les mines. On parle de populations très pauvres, sans emploi, parfois sans formation et très souvent livrées à elles-mêmes. L'or permet donc de se procurer un revenu non négligeable. Des enquêtes démontrent que chaque famille a au moins un de ses membres présent dans les mines ou qui exerce une activité liée au travail de la mine. Donc l'environnement, c'est le cadet de leurs soucis. Pourtant, les effets sont déjà visibles avec la progression de la déforestation et de l'assèchement des rivières. Ces effets sont accentués par l'utilisation grimpante de détecteurs de métaux. Avec ces appareils, même plus besoin de monter une équipe pour creuser un puits. On se contente juste de scruter la surface et de retourner la terre, sans compter l'utilisation de produits chimiques comme le mercure qui pollue les sols et les sources d'eau dans une région où la pluviométrie est la plus basse du pays. Ainsi, des hectares de terrain sont détruits, on ne peut même plus y cultiver ou pratiquer l'élevage. Là aussi, l'État fait défaut par l'absence d'une politique de protection de l'environnement.
Alors, on revient donc à la nécessité d'une réglementation, mais cette réglementation ne risque-t-elle pas de remettre en cause la structure même du système d'orpaillage et du coup de priver les villages de leur principal moyen de revenu?
Oui, c'est aussi toute la difficulté qui découle de la trop longue négligence des autorités guinéennes. Imposer des règles, c'est indispensable, notamment le contrôle des frontières poreuses entre les pays. Mais immanquablement, les observateurs affirment que ça passera forcément par une maîtrise et une baisse des recettes directes pour les orpailleurs. Le forum a proposé des solutions, comme la reconversion des mineurs vers d'autres secteurs d'activité qui permettront le développement de la région. Et puis, il faudra également se pencher sur la formation des jeunes, dont beaucoup ont quitté l'école pour gagner leur vie dans les mines. Toute une génération qui risque d'être sacrifiée puisque les réserves d'or diminuent année après année et dans quelques années, des milliers de jeunes pourraient se retrouver sans la moindre formation professionnelle et donc sans emploi.
Ce sera le mot de la fin. Sidi Yansané, merci beaucoup. Bonne journée.